Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Un samouraï chemine à travers les vapeurs bleutées de la brume jusqu'au pied d'un cerisier en fleurs phosphorescentes. Il s'arrête, puis d'un coup d'un seul, abat l'arbre d'un coup de sabre foudroyant. Ce plan somptueux clôt le film Tabou et restera le dernier d'une œuvre les plus cruciales du cinéma de la modernité. Aujourd'hui, Michel Pomarède et Yvon Croisier vous proposent le portrait de Nagisa Oshima, 1932-1993. C'est toute une vie de cinéaste en quête d'empire et de sens.
Nagisa Oshima, le cinéaste de la chair. Michel Pomarède, Yvon Croisier. Écrit d'Oshima, 1956-1978. Dissolution et jaillissement. Il faut toujours procéder à une continuelle négation de soi, à un constant renouvellement. Ce qui m'importe, c'est de réaliser à chaque fois un film pour lequel le sujet et ma volonté capricieuse soient en accord. C'est une tâche immensément difficile, et s'il ne se trouve pas un grand nombre d'auteurs pour s'engager dans cette voie difficile, il ne pourra exister de programme de renouvellement du cinéma japonais.
Oshima, en fait, est né dans une famille aisée, dans une famille aristocratique même. Il a des samouraïs illustres dans son ascendance.
Louis d'Anvers, biographe du cinéaste.
Il perd son papa à 6 ans. C'est quelque chose qui est très très important. Son papa, qui était un haut fonctionnaire à l'administration de la pêche, en fait, évidemment, une grande administration au Japon. Mais son père était aussi un lettré. Certains disent qu'il était, en fait, un artiste frustré. Il adorait faire de la poésie, dessiner. Et il a légué à son fils une bibliothèque extraordinaire, quelque chose d'important pour Oshima. Même s'il a lu plus tard ses livres, il y avait une bibliothèque, notamment de livres sur l'histoire et sur la politique, qui était très importante. À 6 ans, donc, Oshima se retrouve orphelin de père, et il dira plus tard que le fait de grandir sans père, l'absence de ce père a été finalement plus déterminante pour lui que la présence de sa mère, mère dont il parle peu. Et donc, ça a impliqué quelque chose d'important pour la famille, c'est d'aller vivre à la capitale, de changer d'un milieu qui était un milieu assez aéré et sinon rural, en tout cas provincial, à la dureté d'une grande ville.
Il est passé de Kyoto à Tokyo.
Bon, déjà, c'est un passage, même encore aujourd'hui, le contraste entre les deux villes est absolument extraordinaire. Et donc, ça a joué beaucoup pour lui. Il a ensuite dévoré les livres de la bibliothèque qu'ils avaient pris bien soin d'emporter. Et ça a dû jouer beaucoup sur ce qui est devenu sa formation universitaire, finalement le droit, la politique, et ensuite le fait de se tourner vers l'écriture, parce que c'est via l'écriture qu'il est entré en cinéma.
Ah, alors, cette question du père, elle est importante et commentée par Oshima lui-même, hein, qui dit effectivement que la perte de son père quand il était très jeune a conditionné la manière dont il a vécu, hein, tout simplement.
Mathieu Capel, maître de conférence en études cinématographiques à l'université de Tokyo.
Une autre donnée biographique, même si elle est justement un peu plus métaphorique là, c'est que Oshima est quelqu'un qui a beaucoup tuer le père, entre guillemets, c'est-à-dire qui a longtemps et avec une grande véhémence refusé toute forme d'influence, ou de reconnaître en tout cas toute forme d'influence. Il a raconté ça également, c'est-à-dire l'exaspération qui était la sienne quand ses films ont commencé à être connus, notamment en Europe, face aux questions récurrentes des journalistes qui lui demandaient « Mais alors, voilà, quel cinéaste vous a le plus influencé ?» Et lui, chaque fois, disait « Mais enfin, je n'ai rien à voir avec le cinéaste là dont vous parlez. N'avez-vous jamais entendu parler de ces enfants-là, rétifs, qui refusent absolument d'obéir à ceux qui les ont procédés, d'obéir aux adultes et à ceux qui se rebellent coûte que coûte ?» Et d'ailleurs, cette jeunesse-là qu'il fait équivaloir à la rébellion, il le théorisait comme ça, peut-être même d'ailleurs, je me souviens pas bien, mais dans ce même texte où il parlait justement de la perte de son père, il disait, voilà, on est jeune tant qu'on se rebelle. Et c'est pour ça que lui-même d'ailleurs, même à 40 ans, se jugeait bien plus jeune que ceux qui avaient 20 ans de moins que lui. Oshima est le porte-étendard de cette génération-là qui est en but fatalement, on pourrait dire, à la génération de leurs parents, c'est-à-dire ceux qui étaient adultes au moment de la guerre. Oshima, mais tous ses contemporains comme Yoshida, comme ils sont nés dans les années 1930, Oshima en 32, Yoshida en 33, c'est-à-dire que à la fin de la guerre, ils ont 12 ans, 13 ans, sont de jeunes adolescents, et ils voient les adultes faire cette guerre qu'ils ne comprennent pas et dont ils sont pourtant les victimes. Il y a quelque chose là qui ne peut pas passer. L'impact également d'Oshima, je crois, ne se comprend en 1960. L'impact énorme que le conte cruel de la jeunesse a auprès de la jeunesse manifestante contre notamment la politique du Parti libéral-démocrate et la reconduction du traité de sécurité nippo-américain, ce qui est un énorme mouvement citoyen de plus de 6 mois avec des millions et des millions de manifestants dans les rues du Japon. Donc l'impact énorme que Oshima a auprès de toute cette population-là, c'est justement dans sa manière de mettre la question générationnelle au cœur de son cinéma-là.
俺たち、あんた方みたいにみっともないことにはならないよ。確かに僕たちは社会を変えるという情熱に青春を燃やしてきた。しかし、ぶつかってもぶつかっても壁は壊れない。
Louis d'Anvers, est-ce qu'on pourrait tordre le cou au cliché Oshima, cinéaste de la Nouvelle Vague ? Parce que la Nouvelle Vague, en fait, c'est créé par un studio pour regrouper des cinéastes bien classiques pour faire commerce de films destinés à la jeunesse. Et en fait, on pourrait presque dire que Oshima quitte le studio pour créer sa propre vague à lui.
Il va le faire, il va le faire à la suite d'un incident autour d'un film en 1960, Les Brouillards du Japon, au Japon. Mais il faut savoir que la Shōchiku, qui faisait partie des grandes sociétés de l'époque, avec la Toho, la Toei, le Kadokawa, la Shōchiku avait des réalisateurs maison, notamment Ozu, notamment au crépuscule de sa carrière. Il y avait Kinoshita aussi. Et il y avait dans le système japonais, on engageait des jeunes pour faire l'assistant. Et Oshima avait passé le concours d'entrée à la Shochiku quelques années auparavant. Il était devenu assistant, donc et il apprenait le métier auprès de cinéastes nettement plus classiques. Mais il a aussi, dans la revue des assistants, ils avaient une revue à la Shochiku, il a publié une dizaine de scénarios. Et aussi, il s'est adonné à la critique. Et la critique les montrait, et ses scénarios montraient à quel point il allait pouvoir ruer dans les brancards et faire bouger les choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, une crise a frappé les grandes sociétés japonaises en termes d'adhésion du public et surtout de désadhésion du jeune public. Et en fait, ils ont décidé à la Shochiku de créer effectivement de toutes pièces cette nouvelle vague. Ils l'ont appelée comme ça, de manière assez pratique, la Shochiku New Wave. Mais bon, c'était un nom, rien de plus. Par contre, c'était une réalité. Et comment ils l'ont fait? Ils ont promu de l'intérieur des jeunes cinéastes. Il y avait Oshima, mais il y avait aussi Shinoda, il y avait Yoshida, qui, comme lui, avait été assistant et qui, beaucoup plus tôt que la normale, sont passés de l'assistanat à la réalisation. Et non seulement ils sont passés de l'assistanat à la réalisation plus vite, mais ils l'ont aussi fait avec pratiquement carte blanche. Et ça, c'est évidemment assez spectaculaire. On pourra considérer que c'est quelque chose qui exprime le désarroi d'un grand studio qui ne peut pas trouver de solution pour accrocher un jeune public et qui se dit « Ok, on va jouer ça avec des gens de cette génération ». Mais le bon côté, c'est qu'ils l'ont fait à fond. Ils n'ont pas essayé de les modeler sur une opération marketing ou sur un type de sujet. Bon, il est clair qu'ils ont été bienveillants en voyant Oshima arriver avec des sujets centrés sur la jeunesse, centrés sur le désir, où il y avait de l'érotisme, du filmage à fleur de peau, où il y avait de la colère. Et donc, ça reflétait réellement ce que pouvait être une part importante de la jeunesse au Japon à l'époque. Et l'espace de 3 films, l'espace d'une trilogie, ça a fonctionné très très bien.
1960, conte cruel de la jeunesse, l'enterrement du soleil, nuit et brouillard. Et 5 ans plus tard, les plaisirs de la chair.
1960年, 青春 残酷 物語, 太陽の 墓場, 日本の 夜と霧, そして 5年.
Nicolas Thévenin, vous êtes enseignant en cinéma, vous dirigez la revue de cinéma aussi Réplique. À quoi sert le corps et la peau dans l'œuvre de Oshima?
C'est une question vertigineuse, mais je dirais dans un premier temps que le corps et la peau, pas tant la peau d'ailleurs, plutôt le corps de manière générale, la chair, la nudité, eh bien ils servent à être montrés, en fait. Ils servent à être mis en scène. Le corps, champ de bataille ou champ d'expérimentation, les deux, sans doute.
Dis, quel homme es-tu donc? Tu m'as acheté pour 1 million par mois et tu vas disparaître dans 1 mois. Quel destin pèse sur tes épaules?
Se noyer dans les plaisirs de la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Un homme décide à mourir dans l'année, met la main sur 30 millions d'yens. Il entame un voyage dans les plaisirs de la chair. Et il rencontre une femme. Trois femmes, quatre femmes, cinq femmes.
D'étranges hommes suivent des femmes, des yakuza, des vermines sans pitié, un mari fou, une histoire extravagante. Le plaisir est un poison. Le sexe est un piège. La volupté a l'odeur du sang. Les personnages s'entremêlent. La frayeur les assaille. Un interminable festin érotique. 1965 sera l'année de la chair. Avec ce film, Nagisa Oshima lance une bombe à retardement sur la société bien pensante, les plaisirs de la chair. chaque fois que j'ai tourné sans apporter la moindre modification aux indications et aux dialogues du scénario, j'ai trouvé le saké du soir mauvais. En revanche, quand j'ai tourné quelque chose qui ne se trouvait pas dans le scénario, le saké du soir me semble indiciblement délicieux.
Ce rapport au saké, je crois que ça me fait penser à la manière dont Oshima pouvait fonctionner
Mathieu Capel.
En cellule, j'ai envie de dire, comme une cellule d'agit-prop qui serait donc sa maison de production, la sauce au chat, et tous ceux qui gravitaient autour ou qui en faisaient partie, et qui, au soir d'un tournage, par exemple, se retrouveraient pour discuter le film, revoir le scénario, repenser les répliques. Sur l'improvisation aussi, c'est quelque chose qu'il met en place très tôt, notamment dans Nuit et brouillard au Japon, ce film de 1960 qui lui vaut quelques ennuis à l'époque, où il met en place un système de filmage qui est très contraignant pour toute l'équipe, c'est-à-dire que c'est un film qui dure plus d'1h30 et qui ne compte qu'une cinquantaine de plans, même pas. Donc ce sont des plans très très longs avec une caméra qui bouge beaucoup et une très grande contrainte qui est imposée aux comédiens qui doivent avoir donc des tirades très très longues, très compliquées parce que le contenu du film fait des références très très précises à la situation politique de l'époque, notamment aux dissensions au sein de la gauche japonaise et du parti communiste japonais. Donc ce sont des choses qui sont très très difficiles et Oshima invite justement une forme d'improvisation par l'erreur, par le bafouillage. Il oblige ses comédiens finalement à ne pas répéter X fois la scène. C'est ce qu'il disait hein, d'ailleurs Oshima, c'est-à-dire que il faisait répéter la scène avant le tournage, mais il n'allait jamais jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, justement. Il se disait, il allait jusqu'au moment où il pensait que ce serait la bonne serait la suivante. Et c'est à ce moment-là qu'il tournait. Donc, en tout cas, pour Nuit et brouillard au Japon, il y avait cette invitation à l'erreur.
Shino est une jeune domestique dans une famille bourgeoise. Elle voit arriver un homme, Eisuke, qu'elle a connu quelques années auparavant dans son village natal. Il l'agresse et la poursuit pour finalement violer et tuer sa maîtresse de maison. Face à la police, Shino tait l'identité de l'agresseur et préfère écrire à Matsuko, la femme d'Eisuke, que son mari est le violeur. Basé sur un fait divers des années 50, l'obsédé en plein jour retrace la personnalité de ce violeur et fait remonter, par un subtil jeu de flashback, à la source de sa furie criminelle. Le film qui enchaîne les gros plans sur les détails et passe des visages aux paysages compte 2000 plans.
Dimitri Yanni, vous êtes critique, vous êtes spécialiste du cinéma japonais, vous êtes aussi programmateur de ce cinéma dans les festivals. Avec vous, est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur le mouvement Pinku Aiga, donc le film Pink, en gros le cinéma pornographique de l'archipel, qui va influencer notamment Oshima à la sortie en 1960 de son travail dans les studios. Le mouvement enragé qui travaille avec peu de moyens, on pourrait presque dire dans la rue, comment est-ce que formellement Oshima va s'emparer de l'état d'esprit mais aussi de la technique dans ses films qui suivent?
Alors, les films qui sont des films érotiques produits de manière indépendante avec le budget le plus bas de l'industrie.
3 millions d'yens.
Voilà, 3 millions d'yens. On les appelait d'ailleurs les films à 3 millions d'yens à l'époque et qui sont un petit peu entrés par effraction au début.
Ça fait 25 000 euros aujourd'hui.
Alors ça, j'avais jamais calculé.
Donc, ça fait pas beaucoup.
Ouais, ça fait très peu. Non, ça fait très peu. Et qui sont donc rentrés un petit peu par effraction début des années 60, en profitant de la crise du système des studios, en partie due à l'essor de la télévision. Donc, en fait, ces films se sont mis à contester le monopole des majors sur la création cinématographique et à ébranler tout le système. À tel point qu'en 65, par exemple, le cinéma Pink représente déjà la moitié, presque la moitié, de la production nationale.
Mais comment, Dimitri Yannick, comment ce cinéma Pink, qui a peu de moyens, arrive à rivaliser avec des grands studios, sachant que, comme épée de Damoclès, il y a, dans le code pénal japonais, l'obscénité? Comment est-ce qu'il navigue avec peu de moyens et le fait d'être potentiellement interdit par le code pénal?
Ben avec beaucoup d'imagination et de créativité et de liberté, parce qu'effectivement il y a cette loi de censure qui donc empêche toute représentation de parties génitales, d'actes de pénétration, mais ça va très loin, parce que la censure, en fait, à l'époque, au début des années 60, en fait, on pouvait même pas montrer un sein nu, par exemple. C'est que à partir du milieu des années 60 où on peut quand même, on peut commencer déjà à montrer un téton. Donc en fait, la stratégie de ces productions va passer par l'imaginaire et l'utilisation, notamment de motifs comme la sexualité et la violence, pour contourner, on va dire, cet espace un petit peu clos de la censure, en suggérant, voilà, en
Mais aussi... qu'est-ce qu'on voit concrètement, Dimitri Yannick, dans les films Pink érotiques qui ont un grand succès? Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, en fait, pas grand-chose. Si on les regarde aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment très chaste. Par contre, je dirais que dans leur esprit et dans leur projet, ce sont des films qui, quelque part, contestent la société, en tout cas les plus remarquables et les plus radicaux d'entre eux, ceux qui ont effectivement ému Oshima, ce sont des films qui contestent finalement la société dominante.
Formellement, à l'image, qu'est-ce que ça donne dans le cinéma d'Oshima?
Bon, il faut bien comprendre que les productions Pink travaillent avec des moyens vraiment très faibles. D'abord, par exemple, les films sont post-synchronisés, donc il n'y a pas de prise de son pour réduire l'équipe et les tournages. Ils sont souvent tournés de manière un petit peu guérilla, c'est-à-dire sans avoir forcément des autorisations, dans des décors uniques, avec parfois très peu de lumière, uniquement la lumière naturelle. Or, Oshima travaille quand même dans une économie beaucoup plus confortable. Mais néanmoins, les similitudes vont se faire notamment dans les rapports thématiques. Par exemple, les motifs de la violence sexuelle qui commencent à apparaître, les motifs du viol qui sont très présents dès les années 65 à partir de, par exemple, Les plaisirs de la chair ou L'obsédé en plein jour, qui sont des films qui sont directement influencés par le contexte de l'époque.
J'ai vu des films Pink. Est-ce qu'on pourrait réduire ça à des gros plans, par exemple, sur le visage de la femme qui est violée, mais on ne peut pas comprendre ce qu'elle vit? Est-ce que c'est ça, formellement, qui permet de contourner la censure?
On peut effectivement voir, disons, dans les gros plans d'Oshima sur les visages, une manière finalement de suggérer effectivement l'érotique, l'érotisme, la jouissance, tout ce qu'effectivement on ne peut pas montrer de manière frontale, de le montrer à travers l'expression des actrices. C'est vrai que, par exemple, il y a des effets qu'on voit notamment dans Les plaisirs de la chair, des effets de surimpression lors de certaines scènes qui voilà, un petit peu subliment, on va dire, les visages et font ressentir l'intensité érotique du plaisir. C'est vrai aussi dans L'obsédé en plein jour. On essaye de trouver des stratégies finalement pour conserver une ambition réaliste tout en évitant les problèmes de la censure. Donc effectivement, Oshima emploie ces figures qu'emploie également le cinéma Pink, de privilégier des gros plans sur les visages, mais aussi sur les corps, de fragmenter les corps et de quelque part aussi les érotiser, mais pour non pas pour de l'érotisme en soi, mais pour travailler à travers les motifs sexuels et les motifs érotiques, des visées critiques et politiques.
よせ。
若きマスラオの赤く燃ゆる黄金の灯火、永遠に消えず。
終わりか。
Lors d'une conférence de presse pour annoncer le tournage du film, j'ai annoncé que si je réalisais L'Obsédé en plein jour, c'est que j'étais moi-même cet obsédé en plein jour. En ce monde, faire un film est un acte criminel.
Mathieu Capel, Oshima se définit comme un criminel en disant « je suis cinéaste, donc je suis criminel ». Est-ce qu'il fait référence à l'article 175 du code pénal japonais qui parle de l'obscénité ? Est-ce que ce crime-là, c'est d'être en opposition pour enfreindre ce code pénal, ou est-ce qu'il y a d'autres lieux de ces crimes au Japon, et en référence au code pénal ou pas ?
L'illustration la plus évidente de cette vision de d'Oshima comme criminel, c'est oui effectivement cette référence-là qu'il concerne très directement, puisqu'il a été la cible d'un procès très long après l'apparition. Après la sortie de l'Empire des Sens, puisque donc le film a été produit et monté en France, donc film pornographique avec des scènes de sexe non simulé. Mais ce n'est pas le film qui a posé problème au Japon, puisque le film il a été montré avec les fameuses mosaïques, donc qui c'est flou. Qui sont imposés aux parties génitales des comédiens, mais c'est en fait le livre qui en a été sorti, qui a été lui la cible donc des attaques, donc qui lui a valu ce procès en obscénité. Donc là, effectivement, c'est sans doute le plus le moment où Oshima a sans doute a été le plus proche d'être un véritable criminel, sans doute. Ce qui me semble très important et central chez Oshima, c'est surtout la manière dont le crime est véritablement moteur dans sa mise en scène et son système représentatif ou son système esthétique. Dès les premiers films, son premier film, c'est l'histoire d'un petit criminel, c'est l'histoire d'une arnaque. L'arnaque, souvent c'est sous la forme d'une arnaque d'ailleurs que le crime se profile chez Oshima. Pas vraiment de le criminel fou et absolument sans aucune espèce d'autre mobile que la cruauté ou une espèce de folie, comme on peut aujourd'hui en voir bien souvent. Même L'Obsédé en plein jour, le film que tourne Oshima en 1966 et qui montre justement un exemple de serial killer, quelqu'un qui répond à des pulsions incontrôlables et à la fois de viol et de meurtre, même celui-ci, je crois que on peut pas véritablement le ranger dans une catégorie qui serait celle des criminels absolument fous et sans mobile. Donc Dès Une ville d'amour et d'espoir en 1959, le criminel est celui, ou l'arnaqueur, c'est celui qui est à la marge du système social, sans en être véritablement exclu. Je crois qu'il a un rôle de révélateur, et celui qui finalement est véritablement une espèce de non seulement un agent perturbateur, mais un véritable pervers, au sens premier du pervers, c'est-à-dire celui qui pousse un système à son terme, l'exploite jusque au point où le système se démontre son inanité, démontre son absurdité, et je crois que Oshima a beaucoup aimé, beaucoup filmé ces criminels-là, parce que ça lui permettait d'avoir de montrer véritablement une forme de plan de coupe à chaque fois de la société japonaise, et notamment de son organisation, pas seulement traditionnelle, mais aussi profondément socio-économique, politique. Et il démontre comme ça la profonde nocivité finalement de ce système-là.
Dans Le Petit Garçon, 1969, une famille de marginaux sillonne les routes du Japon pour reconduire la même combine. La femme se laisse tomber à côté des roues des voitures afin d'extorquer de l'argent au conducteur. Elle est bientôt remplacée par son fils de 10 ans. L'enfant finit par avoir la peau marquée par la violence des chutes répétées. Le père a trouvé un moyen de gagner de l'argent à bas coût. C'est tout juste s'il se soucie dans quoi il a entraîné femme et enfant.
Tu as mal, gamin ?
Non, j'ai été surpris la dernière fois.
Si tu as mal, dis-le.
Un peu, juste un peu.
C'est mieux pour l'examen médical.
Plus besoin de me piquer pour me faire un bleu.
Louis d'Anvers, quel regard vous portez sur la production documentaire d'Oshima en regard de celle de sa fiction ?
Sa production documentaire, le documentaire avait toujours intéressé Oshima, aussi en lien avec ses idées politiques, puisqu'à un moment on pensait que avoir une caméra, aller dans les manifestations avec une caméra pouvait être une forme de digestion du fait politique en fait cinématographique. Il en est revenu aussi, mais tout de même. Et là, il se retrouve au début des années 1960, indépendant. Il fait des films, ces films ne rencontrent pas un grand succès. Et pour faire bouillir la marmite, Oshima va travailler pour la télévision. Et là, à la télévision, il va entamer, vraiment, c'est très chargé pendant les sept premières années des années 1960, une série de documentaires qui seront passionnants, qui sont pratiquement tous reliés à ce qu'il va pouvoir faire, dans la fiction. Et il faudra attendre 1968 et la pendaison, suivie ensuite du petit garçon, de la cérémonie, pour voir Oshima devenir réellement un cinéaste connu, aussi internationalement, un cinéaste qui obtient des succès. Et son corpus documentaire a donc été créé à un moment donné où la fiction ne fonctionnait plus trop pour lui, même si certains des films étaient intéressants. Ce qui est passionnant, c'est que il a pu développer dans son cinéma documentaire des thématiques qui ont été très 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 importantes dans son cinéma de fiction aussi. Je n'en prenais qu'un exemple, mais c'est un exemple vraiment marquant quand on regarde ces documentaires. C'est le nombre de films qui traitent de la Corée et des Coréens. la Corée qui avait été occupée par le Japon, la Corée qui avait fourni beaucoup de main-d'œuvre et de soldats au Japon, tous méprisés parce que le racisme anti-coréen était très fort au Japon. D'un film comme La Pendaison en parle, c'est pas seulement un film contre la peine de mort, c'est aussi un film sur le racisme anti-coréen. Et là, il a fait quelques films formidables comme Forgotten Soldiers notamment, qui sont des films sur justement ces soldats coréens qui ont été utilisés par l'armée impériale et ensuite rejetés. Et il a donc, il a fait aussi du documentaire à Okinawa, qui était aussi un peuple du Sud sous-estimé et même racisé. Donc il a réellement pu aller creuser sur le terrain des thématiques qui par ailleurs étaient des thématiques qui lui étaient chères et importantes et qu'il allait développer. Il a pu aussi répondre à cette grande question qu'il se posait et qui mériterait d'être abordée dans une question, je ne sais si elle viendra, mais qui est son sujet sur l'identité japonaise. Que sommes-nous, c'est quoi un Japonais, c'est quoi le Japon, et c'est une thématique dont il a littéralement, géographiquement aussi d'ailleurs, voulu faire le tour avec son cinéma, cette question de l'identité.
Mais Louis d'Anvers, si on poursuit votre réflexion sur l'identité japonaise chez Oshima, est-ce que lui, l'identité, c'est celle des exclus, de ceux qui sont à la marge? Et à force que le Japon classique, normé, exclu, il y a plus de gens dans la marge qu'au centre. Et le centre, on le sait, à Tokyo, c'est un centre vide, et là où réside l'empereur qu'on peut pas, dont la résidence ne figure sur aucune carte.
C'est très intéressant comme réflexion et comme question. En effet, Oshima a été très très tôt révolté par les injustices et par l'injustice sociale essentiellement, par les injustices raciales qui étaient très importantes également, bien entendu, au Japon. Et il a clairement voulu explorer la vie des gens qui vivaient mal, qui devaient se débrouiller, qui étaient exclus soit à cause de leurs origines, notamment coréennes, c'est le cas dans La Pendaison, soit par leurs problèmes sociaux, comme dans un autre film extraordinaire, Shonen, le petit garçon, dans lequel on voit un couple qui traverse carrément le Japon du sud au nord, avec son petit garçon qu'il précipite devant des voitures, pour qu'ils soient heurtés par la voiture en question, et ensuite ils interviennent et ils contraignent, ils amènent le conducteur à leur offrir une compensation financière. Ils le font une quinzaine de fois, ça vient d'un fait divers réel, et c'est réellement l'exemple de ça, c'est réel, voilà, comment on survit, et comment on survit en allant aux limites de la morale, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être victime, mais il s'agit de prendre son sort en main. L'histoire de ce couple et de ce petit garçon est non seulement bouleversante, elle représente, elle incarne vraiment très très fort ce que Oshima voulait dire de la condition du Japon et de l'identité et de la marge. Et non seulement ça, mais en refaisant tout le parcours qui va du sud au nord du Japon, ça se termine dans la neige à Hokkaido, c'est en fait le film, même s'il en a encore fait deux, dont le très important La Cérémonie, c'est quand même un film dans lequel il montre, voilà, j'ai fait le tour de la question japonaise, désormais je suis libre de pouvoir aller créer ailleurs, ce qu'il va faire, puisque dès le milieu des années 1970, il travaillera pour des producteurs français, puis anglais.
En 1976, L'Empire des Sens, long métrage scandaleux qui fait trop d'ombre au reste de l'œuvre d'Oshima, la peau devient le lieu d'un rapport de force et de désir. Le réalisateur raconte l'obsession d'une geisha pour un morceau de chair de son amant, son organe sexuel. Pascal Bonisser, alors critique au Cahier du cinéma, écrit à l'époque que c'est la première fois que quelque chose s'inscrit au cinéma qui puisse se comparer à l'écriture de Sade. Depuis L'œil tranché du chien andalou de Buñuel, Rien n'a été produit cinématographiquement de tel sur la radicalité du délire d'amour et du désir d'amour. Ce film n'est toujours pas visible aujourd'hui au Japon, où la censure interdit de montrer à l'écran des parties génitales, notamment celle peu turgescente d'un vieux clochard qui se souvient de ses étreintes passées avec la belle geisha au pubis poilu.
お前、大阪か名古屋か東京か。お前は陽気ないい女だった。
C'est toi?
Qu'est-ce qu'il prend?
Merde, je ne me souviens pas. C'était à Osaka ou à Nagoya ou à Tokyo. Tu étais toujours si gay. J'étais un de tes clients. Tu ne me reconnais pas?
Je ne t'ai jamais vu.
Couche avec moi, j'ai de l'argent. Alors, écoute-moi, rien qu'une fois.
Toi alors?
Tu es toujours la même.
Dépêche-toi.
Tu ne te souviens plus de moi?
Non. Tu te décides? Tu as froid?
Je veux juste te regarder.
Ça ne m'amuse pas. Tu vas t'enrhumer. Tu ferais mieux de te couvrir. Maintenant, va-t'en.
L'érotisme d'Oshima, qu'on connaît beaucoup en France, c'est d'abord un érotisme politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un érotisme politique? Est-ce que ce n'est pas un oxymore?
En fait, il y aurait deux dimensions vraiment érotiques dans le cinéma d'Oshima. Il y aurait une dimension qui serait liée à l'incarnation, donc incarnation qui est réellement le but du cinéma même, je dirais, incarnation des corps. Donc comment finalement sublimer la beauté des corps. Donc il y a une érotique des corps, mais on le voit ça déjà dès L'Enterrement du Soleil, par exemple, qui est un film qui est censé montrer la crasse la plus abjecte et où des corps luisent et deviennent, voilà, grâce à la moiteur de l'été dans lequel le film est tourné, deviennent finalement d'une beauté, d'un érotisme assez troublant. Et puis il y a effectivement ce que j'appellerais moi plutôt la thématique sexuelle et érotique qui traverse le cinéma d'Oshima, où justement ce n'est pas l'érotisme en soi qui intéresse Oshima, mais l'érotisme comme médiation du politique. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est l'Empire des Sens. Voilà, l'Empire des Sens, c'est de toute évidence un projet avant tout politique qui est de dénoncer l'absurdité de la censure de l'époque. Pas du tout une volonté d'érotiser la femme ou quelque part de complaisance vis-à-vis de l'érotisme, même si bon, il y a des clins d'œil à Bataille, on n'est pas du tout dans cet esprit-là pour Oshima.
Dimitri Yanni, L'Empire des Sens, c'est 1976. Faisons un flashback. 20 mai 1936, il y a une photo qu'on trouve sur Internet, c'est celle de Sada Abe, qui est la vraie geisha, arrêtée par la police ce jour-là. Elle est hilare, elle vient de tuer son amant à la sortie d'un hôtel, elle est entourée de policiers qui s'esclaffent, et elle a laissé un mot sur le corps de son amant, donc elle a étranglé et émasculé, Sada, c'est-à-dire elle, Kishi, son amant, ensemble. Voilà. Et si mes précisions sont bonnes, pour ce crime passionnel, elle va être condamnée à 6 ans de prison. Elle en fera que 5. Et on appelle ça l'incident Ryoki. c'est-à-dire l'incident bizarre, puisqu'on ne cite même pas ce qui s'est passé. En quoi cet incident bizarre de 1936 va traverser 40 ans pour aller, on va dire, percuter l'imaginaire d'Oshima pour qu'il en fasse l'Empire des Sens?
Alors oui, c'est effectivement la matrice donc du film L'Empire des Sens d'Oshima. C'est vrai que c'est un fait divers qui a fait sensation à l'époque, mais c'est aussi un fait divers qui intervient dans un climat politique de grande tension. Il faut se souvenir que c'est très peu après l'incident du 26 février 1936, qui était une tentative de coup d'État organisée par une faction ultranationaliste de l'armée impériale. Et en fait, bon, Abe Sada était dérangeante quelque part pour cette époque de patriotisme dans un pays finalement en guerre. Et sans doute aussi que ce personnage plaisait à Oshima, car c'est en fait une femme ordinaire. C'est pas une militante, c'est encore moins une intellectuelle, qui va finalement pousser jusqu'à l'extrême sa revendication du désir. Mais justement, à l'époque, on l'a catégorisée un petit peu comme une hystérique, comme une nymphomane. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand elle est sortie de prison, Abe Sada a monté sa troupe de théâtre pour jouer son propre rôle sur les planches, un peu comme Lola Montes, on va dire. En fait, c'est assez ambigu le succès de l'Empire des Sens, parce que bon, on peut tout à fait le comprendre. C'est un film qui en plus s'inscrit dans une trajectoire, dans une quête du réalisme à l'époque. Voilà, entamé dans les années 70, je veux dire, il y a deux grands films qui ont poussé le réalisme à ses extrêmes, c'est Salo de Pasolini et L'Empire des Sens, et tous les deux, après l'apogée, voilà, de ces films-là, les années 76, le cinéma est transformé, on tombe dans la, c'est la fin du nouvel Hollywood. Enfin, c'est l'apparition de Star Wars, enfin Spielberg. C'est en fait la phase du cinéma va changer aussi. C'est un basculement, c'est aussi un craquement. En fait, Oshima, ça a été le premier cinéaste japonais à tourner un film authentiquement hardcore.
Dans la mesure où j'ai utilisé le cinéma comme médium pour explorer les domaines inconnus de mon psychisme, je mérite peut-être le nom d'aventurier. Pour moi, le cinéma est une visualisation des désirs du metteur en scène. Au Festival de Venise, lequel je ne me souviens plus, un jeune Allemand malveillant vint m'interviewer. « Pourquoi faites-vous du cinéma ?» me demanda-t-il. « Pour savoir quel homme je suis. »
Mathieu Capel, les textes autobiographiques d'Oshima portent le titre « Dissolution et jaillissement ». Est-ce que c'est la dissolution du Japon prison et le jaillissement du moi ?
Alors, « Dissolution et jaillissement », oui, c'est un titre qu'il a donné à un de ses recueils. Est-ce que c'est la dissolution du Japon prison ? C'est difficile à dire, dans la mesure où encore assez tardivement, c'est-à-dire dans les années 72-75, il écrit justement dans son journal « Le Japon est une prison ». Donc après 13 voire 15 années d'activité cinématographique, rien ne s'est dissous. Au contraire, les murs de sa prison semblent plus durs, solides que jamais. Qu'il faille dès lors peut-être l'effacer dans son fonctionnement, c'est une possibilité qu'à mon avis il visite à partir de l'Empire des Sens.
En 1983, dans Fulio, l'homosexualité latente émerge dans le frottement de deux jeux. Celle d'un gardien de camp japonais à Java, nous sommes en 1942. Et c'est Ryuichi Sakamoto qui est embrassé par un prisonnier britannique, incarné par David Bowie. Seul représentant de l'armée défaite à pouvoir encore s'ériger dans la provocation contre la domination machiste et militariste nippone. Comment bousculer les codes d'honneur militaire sans avoir l'air d'y toucher. ...1986, nouveau pot à pot. Cette fois-ci, entre Charlotte Rampling et un chimpanzé dont Max Mon Amour. Cette femme de diplomate trompe son mari avec un singe, et alors ? Est-ce une relation contre la nature ? Ou une fable pour la fin du siècle, comme l'écrit Oshima ? Comme dans tout bon vaudeville, c'est en tout cas le mari qui les surprend dans de beaux draps. Dommage, ce sont les siens.
Are you alone? Just the two of you?
Why, yes, of course.
And the other times too.
Vous êtes seul?
Yes.
Rien que vous deux?
The other times too.
Oui, bien sûr.
Les autres jours aussi?
Oui.
Just tell me one thing frankly.
Je te le demande franchement.
Is this monkey really your lover?
Est-ce que ce singe est ton amant?
Yes.
But it's unthinkable.
Mais c'est impensable.
Nicolas Thévenin, la dernière phrase du film Tabou, c'est Kitano qui parle d'un jeune samouraï. Il dit « il était possédé par le démon ». Est-ce que cette épitaphe, cette dernière phrase pourrait aller à Oshima ? En 64, il signe « Première aventure d'un petit enfant » et ce petit enfant croit que des démons sont au-delà d'une ligne jaune et il veut la franchir. Est-ce que Oshima, petit enfant abandonné par son père qui est mort à 6 ans, il a voulu franchir la ligne jaune et est-ce qu'il était possédé par le démon ?
Probablement qu'Oshima était lui-même... possédé par le démon, d'une certaine manière, dans la mesure où l'homme et son œuvre ont toujours été traversés par une certaine rage, une colère et peut-être même une rage, un désir ardent de faire la révolution, à la fois la révolution politique, mais aussi la révolution cinématographique. Alors je crois que si on voulait étendre un petit peu le regard sur Oshima, on pourrait penser peut-être qu'il a des cousins démoniaques. Ces cousins démoniaques, ce sont des cinéastes, plus globalement des artistes, des créateurs, qui ont grandi aussi dans un contexte particulier, celui de l'après-guerre. Le parallèle avec Godard a été fait. Moi, je pense qu'il est pas forcément fallacieux, mais un peu rapide. Mais je pense plutôt à d'autres cousins. Un cousin allemand, Fassbinder, et un cousin italien, Pasolini. Et s'il y avait bien deux Européens enragés, vraiment possédés par le démon, c'était bien ces deux-là.
J'ai relevé une citation de Shima qui disait « J'en ai marre qu'on me compare au Godard japonais. Est-ce qu'on demande à Godard si c'est le Oshima français ?»
Oui, c'est vrai que c'est bien de poser la question dans ce sens-là, parce que, à ma connaissance, ça a toujours été dans un sens et pas dans l'autre. Alors, est-ce que Oshima était le Godard nippon ? Aujourd'hui, comparer Godard et Oshima, ça n'a plus vraiment de sens. Mais remis en perspective, cette comparaison, elle a quand même du sens si l'on réfléchit au début de carrière des deux réalisateurs. Il y a des points communs évidents. L'un comme l'autre sont passés par l'exercice préalable de la critique de cinéma. Il y a chez l'un comme chez l'autre un travail constant de réflexivité. Godard comme Oshima sont des cinéastes qui ont passé toute leur carrière à réfléchir sur ce que c'est que le cinéma. Je pense qu'on peut pas qualifier ni l'un ni l'autre de cinéaste de divertissement. Mais c'est pas forcément Godard qui me viendrait le plus immédiatement à l'esprit, mais c'est plutôt Alain Resnais. En fait. Et je dirais que si comparaison devait être faite entre Oshima et Alain Resnais, ça tiendrait sur très peu de films, mais ça tiendrait au fait que Resnais a été toujours un grand expérimentateur aussi. Il a en permanence renouvelé son cinéma et les formes de cinéma. Et ça vient aussi du fait que Resnais, on le sait, a été le grand cinéaste français de la mémoire. Et Oshima, à sa manière, s'il était un cinéaste de son temps, Il voulait interroger la société japonaise contemporaine. Ça lui permettait également d'aller puiser aussi un peu dans les fondements de la culture japonaise. Donc il était aussi, à sa manière, me semble-t-il, un cinéaste de la mémoire.
Tabou, en 1999, est la dernière œuvre du réalisateur. La peau devient alors le champ de bataille de désirs refoulés. Le film raconte l'entrée d'un jeune androgyne dans une milice composée uniquement d'hommes. Les sentiments amoureux vont rapidement se nouer autour de cet éphèbre, introduisant le trouble chez les samouraïs.
Tu ne dors pas ? Si tu ne dors pas, demain tu échoueras.
Celui qui parle approche son visage de celui qui ne répond pas.
As-tu déjà tué un homme ?
Le second samouraï reste silencieux, mais son interlocuteur est certain qu'il est réveillé.
As-tu déjà fait l'amour ?
Il lui caresse l'épaule. Le jeune samouraï se retourne. Il garde les yeux clos et l'expression de son visage faisant mine de dormir interdit à son prétendant d'aller plus loin.
Louis d'Anvers, que reste-t-il d'Oshima aujourd'hui ?
Bon, il est clair que quand on parle d'Oshima avec des gens qui ne sont pas forcément férus de grand cinéma japonais, il est évident que, ah oui, l'Empire des Sens, ah oui, Furio, voilà. Ce qui reste, c'est un cinéaste essentiel de la modernité, par le fait qu'il est d'abord de cette époque de la modernité, qu'il l'a creusé d'une manière dynamique, avec une énergie sensuelle, je dirais même sexuelle, extraordinairement forte, peut-être incomparable d'ailleurs. Et de ce fait, je crois que le corpus de films qu'il reste conserve une capacité explosive littéralement extraordinaire, et ce, y compris ces trois premiers films réalisés sous cette, entre guillemets, nouvelle vague Shoshiku. Il y a là quelque chose qui est tellement fort, et un universel qui passe bien entendu par l'être japonais, mais qui touche tellement à des choses qui sont essentielles et qui sont en dessous de la peau, je dirais d'une certaine façon, qui relèvent de l'ordre du désir, que ce soit le désir de changer le monde ou le désir sexuel. Il reste une charge thématique, une charge visuelle, parce que c'était aussi, sans être un styliste, il était quelqu'un qui filmait de manière extraordinaire. Il reste une charge là, émotionnelle, thématique et sensuelle, qui est à peu près unique. Et donc forcément, à un moment ou l'autre, Oshima reviendra, en tout cas pour un public largement cinéphile, et là, à l'échelle de nombreux pays, dans une actualité brûlante.
Je me pose cette question. Comment faire pour que, non pour mon propre bonheur, mais pour le bonheur de tous les Japonais, le peuple japonais, somme d'individus libres, puisse avoir le droit de voir ce qu'il veut voir, le droit d'écouter, le droit de lire ce qu'il veut lire.
Nagisa Oshima, le cinéaste de la chair. Avec Nicolas Thévenin, directeur de la revue Réplique, Dimitri Yanni, critique et programmateur, Mathieu Capel, maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de Tokyo, et Louis d'Anvers, auteur de la biographie d'Oshima aux éditions des Cahiers du cinéma. Les extraits des écrits d'Oshima, Dissolution et Jaillissement, les dialogues de films et les présentations étaient dits par Maiko Vuillo et Sango Saito. Toute une vie, coordination Christine Bernard assistée de Sylvia Favre, réalisation Yvan Croisier, une émission proposée par Michel Pomared.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre, Elna Fraisse et Anne-Lise Signoret de la bibliothèque de Radio France.